Chapitre 46. Charcot pénétra en trombe dans le bureau de Julien Vasquez, là où il avait passé la moitié de la nuit à raconter son histoire sur l'Ange Rouge. Le lieutenant qui portait les cafés n'avait rien pu faire pour l'empêcher d'entrer. Face au capitaine Vasquez, un jeune était vautré sur une chaise et menotté. Un blanc bec mal rasé, vêtu d'un jean taille basse et d'une veste de survêtements blanc et vert, d'une propreté impeccable. Le commissaire l'empoigna sans prévenir et le décolla du sol.
« Qu'est-ce que t'as à voir avec Glorianovic? Qu'est-ce que tu me veux ?»
Le jeune se débattit en gueulant des insultes. La chaise vola par terre. Vasquez s'interposa et poussa Charcot à l'extérieur, le tirant par le bras.
« Faut que tu te calmes, ok ?»
Le commissaire réajusta le revers de sa veste, les yeux furieux.
« Explique. Tu devrais te faire discret au lieu de débarquer comme ça dans mon enquête. T'as déjà fait suffisamment de conneries. »
Surpris par les cris, des collègues étaient sortis dans le couloir. Vasquez leur signala que tout allait bien et s'adressa à Charcot.
« Allez, viens, on va se boire un café. »
Les deux hommes se rendirent près de la machine. Par la petite lucarne, la nuit était tombée alors qu'il était à peine 16h30. Quelques flocons se promenaient encore, çà et là, soufflés par le vent. Charcot versa de la monnaie dans la coupelle et plaça deux tasses propres sous la machine. Ses doigts tremblaient un peu.
« Je t'écoute. »
Vasquez s'appuya au mur, un pied contre la paroi.
« On a interpellé le jeune grâce à un coup de fil, suite à l'enquête de voisinage au quartier de la Muette, là où vivait Glorianovic. On ignore qui a téléphoné, mais selon l'informateur, le môme avait rôdé à plusieurs reprises dans le hall et y passait ses journées, comme s'il surveillait quelque chose. On est retourné sur place, on a interrogé de nouveau les voisins, et fini par obtenir l'identité du môme. Il s'appelle Johan Chaffran, 17 ans, pas de casier. »
Charcot tendit une tasse pleine à son collègue et porta la sienne à ses lèvres.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre histoire?
Le tueur s'en est servi comme d'une sentinelle. Chaffran était là pour l'avertir par téléphone dès que tu entrerais dans l'immeuble.
Vasquez sortit une photo de sa poche.
Il avait ton portrait sur lui, fourni par le tueur.
Charcot récupéra la photo.
Elle était récente et avait été prise alors qu'il montait dans sa voiture. À cause du plan trop rapproché, il était incapable de deviner l'endroit. Un parking, c'était certain. Peut-être celui d'une grande surface. Le tueur avait été à quelques mètres de lui, l'avait pris en photo. Et il n'avait rien vu.
Chaffran connaît donc l'assassin.
Il n'a jamais vraiment vu son visage. Il parle d'un blanc de taille moyenne, qui portait un bonnet, une écharpe, une grosse doudoune et des lunettes de soleil. À vue de nez comme ça, lui donne une trentaine d'années, peut-être 35 maximum. On va essayer de lui rafraîchir la mémoire. Aucune chance d'avoir un portrait robot, donc.
On va voir, mais je n'y crois pas.
Parle-moi de leur rencontre. L'assassin de Novik s'est mis en contact avec lui samedi dernier, le 17. Il l'a abordé et lui a demandé de lui rendre un service contre une belle somme d'argent. Il lui remettrait 500 euros en main propre si le jeune acceptait de surveiller ton arrivée sur plusieurs jours. Il lui a dit que tu te pointerais certainement dans l'immeuble lundi ou mardi. Le jeune avait pour mission de l'appeler dès qu'il te verrait. S'il le faisait, l'homme lui avait promis 500 euros supplémentaires. Somme dont Chaffran n'a évidemment jamais vu la couleur.
Et le numéro de téléphone?
Il nous mène à une puce dépaquée. Aucun moyen de rattacher une identité au numéro. Quant au signal d'émission, il n'existe plus. Probable que notre homme se soit débarrassé de son téléphone.
Charcot vida sa tasse d'une gorgée et se brûla la langue. Le tueur avait tout calculé et parfaitement orchestré.
Bordel!
Il écrasa la tasse dans le lavabo et s'appuya aussi contre le mur, face à Vasquez, les mains dans les cheveux.
Ça confirme que le tueur vit dans un secteur proche de l'endroit où j'ai découvert Gloria. J'ai mis une demi-heure pour faire le trajet de l'appartement au poste d'aiguillage. Entre-temps, notre tueur a reçu l'appel du jeune, est allé empoisonner Gloria à l'aide de médicaments et a fui. Il savait qu'il aurait le temps de tout faire sans être inquiété.
Charcot emmena Vasquez dans son bureau. Robillard était assis à sa place, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Le commissaire observa la grande carte de la capitale accrochée au mur. Il écrasa son index à l'endroit où avait été découverte Gloria.
Il fallait marcher pour atteindre le lieu où Gloria était séquestrée, environ 5 minutes aller-retour. S'il est venu en voiture, on peut imaginer qu'il se trouvait à 10 minutes de là, maximum, au moment de l'appel. Ça limite les recherches aux arrondissements limitrophes du 19e.
On le savait déjà, plus ou moins, un gars du coin.
Qu'est-ce que le môme a déballé d'autre?
Le tueur est venu à pied à sa rencontre, mais après avoir reçu le fric, Chaffran l'a suivi discrètement. L'homme était garé à une centaine de mètres plus loin, le long d'une petite rue perpendiculaire.
Chaffran a réussi à voir sa voiture. Une petite Clio blanche, genre plutôt ancien, mais sans plaque d'immatriculation.
C'est pas vrai.
Le comble de la prudence, non? On a bien affaire à un ultra méticuleux qui ne laisse rien au hasard. Il a peut-être revissé ses plaques plus loin une fois assuré d'être seul. Cependant, il y a un dernier truc qui pourrait nous aider. Chaffran a remarqué que la voiture portait une attache caravane. Tu sais, ces boules auxquelles on met normalement une balle de tennis.
Je vois, oui.
Le truc, c'est que j'imagine mal une Clio tracter une caravane. Je pense plutôt à une moto avec un porte-moto. Il s'est peut-être déplacé en deux roues pour aller empoisonner Novik plutôt qu'en voiture. Ça évite les bouchons et ça lui aurait garanti d'arriver avant toi, indépendamment de la circulation. On va essayer de creuser par là.
Faut que tu cuisines encore ce petit con. Presse-le jusqu'à ce qu'il n'ait plus de jus.
Vasquez tapa sur l'épaule de Charcot et disparut. Le commissaire resta là, figé. Il ne quittait pas la carte des yeux. Ses poings étaient serrés. « Ça va ?» fit Robillard, qui constatait son malaise. Charcot haussa les épaules et retourna à sa place. Voûté au-dessus de sa table, il n'arrêtait pas de penser à Gloria. Il recommença à faire défiler ses photos d'un geste las, sans vie. Clac, clac, clac. Le profil de l'assassin s'affinait un peu. Les dires de Vasquez ne faisaient que confirmer l'image mentale que Charcot s'en faisait. Mais curieusement, il n'imaginait pas l'assassin en motard. Conduire ce genre d'engin était dangereux, comportait une part d'imprévisible, ce qui ne lui paraissait pas coller avec le profil établi. Pas une caravane, pas une moto. Alors quoi ? Charcot réfléchit longtemps. Plus tard, il eut une grosse montée d'adrénaline. Il fouilla dans les photos et resta figé face à celle montrant la cabane branlante où il avait trouvé le sperme. Un autre cliché juste en dessous donnait un plan large de l'endroit. La cabane, l'île, le marais. Et la barque. La barque.